Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les tensions à Jérusalem. Plus de 170 Palestiniens ont été blessés ces derniers jours lors de heurts avec les forces israéliennes à l'esplanade des mosquées. Au moins 6 morts dans un attentat en Afghanistan. 3 explosions ont frappé ce matin une école pour garçons d'un quartier de l'ouest de Kaboul. C'est arrivé entre le 27 et le 31 mars dernier à Moura, dans le centre du Mali. Des témoins et l'ONG Human Rights Watch rapportent des centaines d'exécutions sommaires de civils, des viols et des actes de pillage commis par des soldats maliens et des combattants étrangers. Notre invité sera le journaliste et écrivain, ancien rédacteur central à Centrafrique, Sédic Abba. L'invité de rencontre hier soir était Rémy Rioux, directeur de l'Agence française de développement. Il a évoqué les missions de son agence, notamment en Méditerranée. Extrait dans votre édition. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit sur les tensions à Jérusalem, une réunion liée à l'escalade des tensions après des accrochages qui ont fait plus de 170 blessés ces derniers jours sur l'esplanade des mosquées, principalement des Palestiniens. La France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les Émirats arabes unis avaient demandé la tenue de cette réunion. La Jordanie, qui administre l'esplanade des mosquées, a, selon les mots du roi Abdallah II, appelé Israël à mettre fin aux mesures illégales et provocatrices qui mènent vers une plus grande escalade. L'aviation israélienne a mené des frappes dans le sud de la bande de Gaza, des frappes après un tir de roquette vers Israël, une roquette interceptée par un bouclier antimissile. C'est arrivé entre le 27 et le 31 mars dernier à Moura, dans le centre du Mali. Des témoins et l'ONG Human Rights Watch rapportent des centaines d'exécutions sommaires de civils, des viols et des actes de pillage commis par des soldats maliens et des combattants étrangers. Une version contredite par l'armée malienne, qui a repris le pouvoir dans le pays par la force en 2020. Elle assure avoir neutralisé 203 djihadistes lors d'une opération d'envergure. Entretien avec le journaliste, ancien rédacteur en chef central à Jeune Afrique, et écrivain Sédic Abba, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation chez Impact Éditions, Sédic Abba.
L'armée malienne a revendiqué une opération à Moura, qui est dans le centre, une ville, une petite ville, même un village qui est dans le centre du Mali, indiquant avoir obtenu des renseignements sur la présence de groupes djihadistes qui seraient venus pour prélever l'impôt. Et à la suite de ce renseignement, l'armée a monté une opération aéroportée qui a duré à peu près entre 4 et 6 jours. Et c'est pendant cette opération que, visiblement, les djihadistes ont été confondus à la population civile. On est arrivé à un massacre que différentes sources situent entre 200 et 300 morts. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte d'émotion planétaire parce que, visiblement, des femmes, des jeunes, des enfants ont été massacrés au cours de cette opération, qui a été présenté par l'armée malienne comme un énorme succès, alors même que visiblement, même si la présence des djihadistes a été reconnue, il y a beaucoup de personnes innocentes qui ont été massacrées au cours de cette opération des forces armées maliennes.
L'armée malienne qui a assuré avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes au cours de cette opération qui a été menée entre le 23 et le 31 mars dernier.
Oui, mais à côté de cette revendication de personnes djihadistes qui pourraient se trouver, parce qu'une des stratégies des groupes djihadistes aussi, c'est de se confondre à la population civile. Mais visiblement, la conduite de cette opération ne s'est pas faite être avec un professionnalisme qui aurait pu permettre de distinguer certains djihadistes qui étaient peut-être présents du reste de la population qui a été tuée. Toutes les personnes, toutes les victimes ne sont pas forcément des djihadistes. Et aujourd'hui, le sentiment général partagé sur place après différents témoignages qui ont été obtenus de première main, c'est qu'il y a eu plus de personnes non djihadistes massacrées que de vrais djihadistes massacrés. Et on comprend jusqu'ici les réticences des autorités maliennes à laisser se faire une enquête indépendante qui est réclamée de par le monde, par les organisations de défense des droits de l'homme, par les États-Unis, par la France, par l'Union européenne. Tout le monde réclame une enquête indépendante. Si tant est que l'armée malienne n'a massacré que les djihadistes, il n'y a pas de raison qu'elle fasse obstruction à la mise en place d'une enquête indépendante sur ce qui s'est passé à Moura.
Vous évoquez ces témoignages, des témoins évoquent des exécutions liées à l'origine ethnique des personnes.
Oui, beaucoup de gens disent que à Moura, les peuples ont été particulièrement ciblés, puisqu'on présume que la plupart des djihadistes, et c'est la Katiba Massina de Amadou Koufak qui était la cible de cette opération. Beaucoup de peuls, visiblement, ont été exécutés sans avoir parti lié avec les mouvements djihadistes. Eux-mêmes, peut-être, ont peur de ce que les djihadistes font dans la région, mais ces personnes ont été tuées uniquement sur la base de leur appartenance ethnique. Et ça, je pense que c'est un fait gravissime. C'est quelque chose qui fait entorse à la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que le fait de commettre ces exactions de cette dimension affaiblit la lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas des victoires comme ça qui peuvent arranger les choses, parce qu'on a remarqué que l'injustice nourrit le départ des jeunes dans le terrorisme. Aujourd'hui, des jeunes peuls d'autres régions du Mali vont dire que leur ethnie est ciblée et ils vont s'engager massivement dans ces groupes armés. On n'en sortira pas. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faudra faire une enquête indépendante, faire toute la lumière. Et si des erreurs ont été commises, si des responsables, des coupables ont été identifiés, il faut qu'ils en répondent devant les juridictions. En plus de cela, le rôle de l'armée malienne n'est pas de tuer les djihadistes. C'est d'arrêter les djihadistes pour les mettre à la disposition de la justice. La lutte contre le terrorisme ne s'affranchit pas de loi de la République, ne s'affranchit pas du droit international. Même lorsqu'une personne est présumée djihadiste, il faut l'arrêter, la mettre à la disposition de la justice. On ne revendique pas d'avoir tué des gens parce qu'ils sont djihadistes. On doit au contraire dire qu'on a pu arrêter des gens, on les a mis à la disposition des autorités judiciaires du Mali qui vont reconnaître leurs responsabilités et leur appliquer les rigueurs de la loi malienne.
Et l'armée malienne a-t-elle agi seule?
Non, l'armée malienne n'a pas agi seule, parce que différents témoignages disent qu'il y avait à ses côtés des ressortissants européens, des gens, voilà, pour ne pas reprendre l'expression, les témoins disent qu'il y avait des blancs avec eux. Et certainement, c'est soit les coopérants russes, soit leurs alliés de Wagner qui ont participé à cette opération. Certaines ne parlent, d'après les témoignages qui ont été faits par les victimes, les gens ne parlaient pas français. C'était des gens qui étaient aux côtés de l'armée malienne, qui ne parlaient pas français et qui ont assisté, lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes participé, à toute cette opération d'exécution, à l'identification des personnes qui ont été exécutées. Et ça, je pense que c'est un fait tout à fait grave la lutte antiterroriste puisse dévier de cette façon. Ça peut vraiment avoir un impact négatif, parce que la lutte ne peut être gagnée sans la collaboration des populations. Et de telles exactions ne font que creuser le fossé entre les forces de défense et de sécurité et la population. Et donc, si des choses comme ça continuent, on est parti pour de longues années sans gagner la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Et ce qui s'est passé dans ce village du centre du Mali, à Moura, cela illustre-t-il un changement de stratégie de la part de l'armée malienne dans sa lutte antiterroriste?
Oui, on peut le dire. Parce que par le passé, les armées de la sous-région et l'armée malienne aussi étaient dans une stratégie défensive, c'est-à-dire que les groupes terroristes avaient l'initiative d'attaquer les forces armées maliennes. Mais depuis un certain moment, les Mali ayant acquis un certain nombre de moyens aériens, ayant renforcé sa composante aérienne avec l'arrivée des hélicoptères acquis à la Russie, l'armée malienne a repris a choisi maintenant d'aller à l'offensive, d'attaquer le groupe djihadiste, d'attaquer souvent sur leur chemin, souvent dans des villages où on présume qu'ils y sont. Et dans le cadre de ça, il y a eu de nombreuses bavures. Aujourd'hui, on a une grande émotion parce qu'à Moura, apparemment, le nombre de victimes est élevé, mais il y a eu aussi des cas. Il n'y a pas longtemps, une communauté touareg a dit que quelques-uns de ses membres ont été arrêtés par l'armée malienne et les 15 personnes arrêtées ont été retrouvées exécutées. Donc, il y a aujourd'hui un changement de stratégie avec une volonté d'aller au combat attaquer le groupe terroriste. Mais en même temps, dans cette volonté d'aller attaquer le combat, il y a de nombreuses bavures qui se font, notamment dans une sorte de huis clos, parce qu'à chaque fois, l'armée choisit la posture du déni, refuse de reconnaître les erreurs qui ont été commises, couvre les agissements de ses membres. Il se pourrait que certains militaires aient agi de leur gré, mais il faut que le devoir de l'armée malienne, si elle veut être crédible, c'est de laisser faire des enquêtes internationales, et s'il y a des brebis galaises dans ses rangs, de pouvoir les exécuter, parce qu'il y va de sa crédibilité et il va de soutien international dont elle a besoin aussi pour continuer la lutte contre le terrorisme. Aucun pays, aucun organisme, aucune organisation internationale ne pourrait apporter du soutien à l'armée malienne, ni même continuer la formation, parce que l'Union européenne a dit par exemple qu'elle attend de voir clair pour savoir si elle continue le programme de formation de l'armée malienne qu'on connaît plus sous le nom de EITM.
Le journaliste et écrivain Sédic Abba, auteur notamment de Mali Sahel, Notre Afghanistan à nous chez Impact Édition. Un attentat en Afghanistan, trois explosions ont frappé ce matin une école pour garçons d'un quartier de l'ouest de Kaboul. Il y a au moins 6 morts. Les déflagrations se sont produites au moment où les élèves sortaient de classe. Ces dernières années, ces derniers mois, ce quartier a été la cible de plusieurs attaques revendiquées par la branche régionale du groupe terroriste État islamique. Plusieurs dizaines de réfugiés africains ont participé hier pour le troisième jour consécutif à un sit-in devant des bureaux de l'ONU à Tunis. Ils veulent être évacués vers d'autres pays. La majorité de ces personnes ont été secourues au large de la Tunisie après le chavirage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement le continent européen. L'invité de rencontre hier soir était Rémi Riou, directeur de l'Agence française de développement. Il a notamment évoqué les missions de son agence, exemple en Méditerranée extrême.
L'Agence française de développement, l'AFD, c'est l'institution qui finance, accompagne tous les projets de développement de nos partenaires internationaux qui souhaitent créer un lien, coopérer avec la France, un lien concret, un lien au service des populations. Elle a grandi au fil du temps, c'est une vieille maison, elle a 80 ans aujourd'hui, elle est née le 2 décembre 1941. À Alger, à Dakar, à Londres, hein, pas à Vichy, je le précise. C'était la caisse centrale de la France libre et puis elle s'est étendue maintenant dans 115 pays dans le monde avec lesquels on a à peu près 1000 projets chaque année financés, accompagnés pour 12 milliards d'euros. Donc c'est une institution financière qui a, je crois, la taille critique dans le monde et qui est un certain visage de la France, un visage amical, respectueux. En particulier, on a un département qui s'appelle les Orients, donc je suis très heureux d'être à Radio Orient pour en parler.
Alors justement, Rémi Riou, quelles sont les actions menées par l'AFD dans les pays de la Méditerranée? Je pense à des pays qui ont de grands besoins actuellement, je pense au Liban en particulier.
Alors j'étais au Liban à plusieurs reprises, évidemment, y compris lors du dernier déplacement du président de la République en août. Et bien sûr, on est très très attentif à la situation actuelle. Il y a un nouveau gouvernement maintenant. On espère, en suivant les discussions à Washington aussi, que les discussions avec les institutions financières internationales, le Fonds monétaire, la Banque mondiale vont reprendre et permettre de fixer un cadre dans lequel tous les acteurs, y compris l'AFD, au nom de la France, pourront s'inscrire. Alors on n'a pas abandonné le Liban, hein, loin s'en faut, simplement on passe maintenant par la société civile. Hein, donc on travaille beaucoup.
Vous contournez le gouvernement en fait.
L'AFD elle a cette caractéristique finalement de travailler avec tout le monde dans un pays. Elle travaille avec les gouvernements, c'est à peu près la moitié de ce qu'elle fait. Mais dans la situation financière actuelle du Liban, ça n'est pas possible de prêter. Et puis elle travaille, ça c'est l'autre moitié de nos 12 milliards, 6 milliards, avec les collectivités locales, avec le secteur privé, avec la société civile, avec les ONG. Tous ceux finalement, à nouveau, qui souhaitent un lien avec la France, un lien positif, un lieu constructif et de long terme. Et donc c'est ce qu'on fait bien sûr au Liban, malgré et dans la crise.
Et j'imagine qu'actuellement, il y a une grande inquiétude en Méditerranée en raison de ce qui se passe en Ukraine et la crise du blé qui risque de conduire à de la famine dans certains pays.
Moi, je l'ai dit très tôt, dès 2020, publiquement d'ailleurs, la crise d'abord de la Covid-19, c'est une crise, je dirais, des classes moyennes, la Covid-19. Là où elle a frappé finalement le plus durement, c'est souvent dans ces pays émergents, émergés, je dirais, des classes moyennes du monde, à la fois en géopolitique, vous voyez, dans les pays, et aussi dans les pays, c'est souvent les classes moyennes qui ont été frappées, y compris dans leur espoir de progresser, que leurs enfants vivent mieux. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour toutes ces sociétés. Et c'est particulièrement le cas, vous avez raison, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Donc, il y a une attention très particulière. Et s'ajoute à ça, évidemment, les conséquences maintenant de la guerre en Ukraine. En particulier, 80% du blé, vous le savez, en Égypte, vient de Russie et d'Ukraine. Et le pain c'est la vie, bien sûr, dans de très nombreux pays du monde arabe. Donc il va falloir trouver dans les mois qui viennent, probablement dans les 2 années qui viennent, des solutions financières et techniques.
Rémi Rioux, directeur de l'Agence française de développement, invité de rencontre hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. L'agression russe en Ukraine, le président ukrainien a annoncé que la Russie avait lancé une offensive majeure dans l'est du pays. Ailleurs en Ukraine, les bombardements se poursuivent, notamment sur le Donbass. Sur le front humanitaire, aucun couloir d'évacuation de civils n'a pu être organisé ce mardi en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et cela pour le 3e jour consécutif. Washington annonce la tenue d'un sommet mondial sur le Covid-19. Ce sera le 12 mai prochain. Objectif, se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu en virtuel, sera coprésidée par les États-Unis, l'Allemagne, actuellement à la tête du G7, l'Indonésie à la tête du G20, le Sénégal à la tête de l'Union africaine et le Belize à la tête des pays des Caraïbes. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h sera Eduardo Rian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès, soutien d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h16.